you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny, réalisation Alexandre Fougeron. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Jean-Christophe Brianchon et, joie nouvelle, et j'espère pas la dernière, François Angelier qui nous a rejoint pour cette dispute. À notre sommaire, Ninon dans la nuit de Capucine et Simon en Johanna chez Alia, Le dernier fleuve d'Hélène Frappa chez Actes Sud, Véron d'Hélène Zimmer chez POL et un coup de cœur de Jean-Christophe Brianchon pour La solitude Caravage de Yannick Enel chez Fayard. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des exemplaires de papier, revue de France Culture, c'est le numéro 27, sommes-nous encore démocrates, une coédition Radio France et Exil. Nous avions parlé dans la dispute il y a tout juste 2 ans du premier roman de Simon Johannin, L'été des charognes, un roman d'initiation avec une allure de chemin de croix, mais une rédemption peut-être, au bout du compte, grâce à la puissance de la littérature, de l'écriture, sur un être. Il y avait, sur le fond, quelque chose de comparable au premier livre d'Édouard Louis, mais sans cette distance que l'auteur Picard avait instaurée avec ses racines. Simon Johannin revient, mais il n'est pas seul, puisqu'il signe avec sa femme, Capucine Johannin, également photographe, ce nouveau roman, Nino dans la nuit, toujours chez Alia. Nino, on va le rencontrer au début du livre, tentant de s'engager dans la Légion étrangère, mais c'est un faux départ, puisque l'expérience sera de courte durée. Après la campagne désolée de l'été des charognes, c'est la capitale désolante et sa banlieue que nous raconte Nino, avec Lal, son grand amour, et Malik, son ami d'enfance.
Il y a du monde, des copains tous partisans de la fête, juste des gens qui volent quelques heures sous des lumières moins blanches que celles que nous sert le jour. On s'en fout un peu tant qu'il y a à boire, que la musique est bonne et que le soleil reste caché.
À Paris ici, pas là où ça pourrait mieux se passer. Ça fait du temps que je suis là maintenant et dès le début j'ai marché. J'ai marché, encore marché, je suis passé du Paris où il y a de la place pour rien à celui où il y en a trop pour tout. Des trottoirs trop grands, des immeubles trop larges, des voitures trop grosses. Rien à faire, ça suffit pas pour remplir tout le vide que les riches d'ici installent autour d'eux. C'est le vide de l'oseille où tout s'endort tôt sur les bourrelets de soie, des morceaux de chrome aux lèvres et la bite à la main. C'est comme partout, il n'y a que le décor qui change. J'aime pas ces endroits, on s'y ennuie trop. Et pour voler, c'est pas pratique. Trop de méfiance entoure les coins où le train de la vie est grand. J'ai continué de marcher parce qu'il n'y a que ça à faire dans les villes et Paris encore plus. Marcher les boulevards et les ponts, alors j'ai marché. Ça va vite de traverser Paris en marchant, ça fait glisser tout le décor de l'histoire et puis les eaux et même le ciel se tirent vite en arrière petit à petit. Il y a tout le monde qui me tourne autour quand je traverse la Seine. C'est ça Paris. On est en haut de la boule. Je me disais, t'es fatigué Nino, tu devrais faire une pause parce que tu penses avec le cerveau d'un abruti. Mais pas de stop pour les jambes qui savent que si on veut aller plus loin, il faut pas ralentir. Alors j'ai marché. Et pour la première fois, je suis passé sous le pont qui sépare les deux mondes, mais je savais pas. Non, je savais pas que la merde de pigeons en quantité étonnante marque ici de son sceau sacré le trottoir exactement là où on glisse d'une dimension à l'autre. Tout ça, je l'ai découvert après, plus tard, quand j'ai enfin eu le temps de regarder autour de moi. À force de passer de l'une à l'autre, j'ai fini par la voir, la différence. Mais au début, j'ai marché. J'ai presque pas vu les pigeons, ni les ordures cramées, ni le camion sans moteur et les autres épaves un peu partout qui montent ici la garde à l'entrée de la banlieue. J'ai à peine vu le Lidl. J'ai pris le foyer d'hébergement d'urgence pour une cité ordinaire. J'ai dépassé le campement et marché jusqu'à l'immeuble où je savais que je me ferais baiser, mais où cette petite douille que me glisserait le propriétaire serait le prix à payer pour un silence souhaitable, au sec, pas cher. C'est pas comme si j'étais en position de négocier. Personne pour garantir Nino, alors Nino se débrouille. Capucine et Simon Johanna co-signent Nino dans la nuit chez Alia et c'est Lucille Comeau qui commence à nous en parler.
Oui, cette histoire de quatre mains m'a déjà assez fascinée parce que je ne sais pas du tout comment on peut écrire un roman à deux et ça correspond en plus peut-être dans le roman à un processus qui se met en place assez vite. Vous avez un peu raconté l'histoire Arnaud au début. En fait, c'est un personnage qui il y a une sorte de prologue qui d'ailleurs est assez étonnant parce qu'on peut croire que ça va être une histoire d'engagement
de légionnaire,
ouais, donc de grand départ et d'exotisme et d'emblée ce discours, cette espèce de logorée permanente qui est la logorée de Nino Paradis, elle s'adresse à quelqu'un qui apparaît sous la forme tu, toi, et dont on découvre assez vite que c'est donc l'amoureuse d'Inino qui va retrouver à Paris dans une vie en effet de galère, de semi-inventivité, semi-vraie détresse sociale, où on choure au carrefour, on fait quand même la fête avec des copains, où on s'aime beaucoup, et ce que j'aime déjà dans les personnages et dans la manière et le milieu dans lequel ils évoluent, c'est que ils sont sur quelque chose de très délicat, je pense, à appréhender du contemporain entre la vie un peu branchée, un peu cool, on peut dire ça comme ça, et la vraie misère sociale. Et ça, c'est tenu tout du long. C'est-à-dire que jamais on bascule ni dans l'un ni dans l'autre, jusqu'à la fin, sans révéler la chute. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est vraiment un roman adolescent, je pense, dans l'écriture, dans tout ce que l'énergie qu'il met en place, y compris dans ses maladresses, ses effets de répétition. Et ça s'assume dans l'écriture, ça s'assume dans le romantisme. Moi, j'aime énormément l'histoire d'amour entre les deux personnages. J'aime pas souvent les histoires d'amour dans les livres. Donc vraiment, celle-là, je la trouve très belle, très délicate, parce que il y a à la fois une grande violence dans les rapports, et surtout les rapports sociaux. On va voir que Nino va se confronter à plusieurs reprises à des employeurs qui auront à chaque fois le même type de discours que le sergent qui l'accueille, en fait, à la Légion étrangère. Et en même temps, c'est pas non plus un exclu, c'est-à-dire qu'il a des relations à peu près normales avec son père, qu'il va voir à un moment donné, même assez tendre, assez douce, et avec sa copine aussi. C'est quelque chose de très traditionnel, en fait, dans le fond, de très romantique au sens du romantisme le plus suranné, avec des formules parfois. Enfin, moi, j'en revenais pas qu'on puisse encore écrire ça, enfin, qu'on puisse même adresser ça à quelqu'un, même si je serais assez heureuse de pouvoir le faire. Donc du coup, cet équilibre-là, je le trouve très bien tendu. Après, j'ai des réserves, j'y reviendrai peut-être après, mais j'ai eu peur à plein de moments de l'objet un peu branché, même la couverture, physiquement, le livre, il est noir, avec un titre de couleur arc-en-ciel. Il y a quelque chose de potentiel un petit peu dans l'air du temps qui peut faire peur un peu.
On reviendra sur vos réserves, Lucille Comeau. Premier regard de François Angelier sur Nino dans la nuit.
Bah, moi, je suis un peu pareil. J'avais au départ une grande peur à l'égard du livre. Déjà, la couverture qui fait un peu gommette et confetti m'avait gêné. Le noir, me rassurait plutôt. Mais rapidement, je me suis laissé avoir parce qu'effectivement, c'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour de Nino Paradis à Lalle qui dure 278 pages. Donc c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est un monologue, mais un monologue qui n'est pas narcissique, quoique, qui n'est pas bouclé sur l'histoire d'un individu qui se raconte à lui-même ses pauvres malheurs et la difficulté de sa vie au quotidien, mais c'est quelqu'un qui offre sa vie à la femme qu'il aime. Donc déjà, il y a une posture, je sais pas si le mot est tout à fait bien choisi, enfin il y a en tout cas un angle d'attaque qui est sur le plan littéraire très très exaltant. Par ailleurs, moi j'étais plus intéressé par l'écriture, l'incantation, la poésie intrinsèque du texte, qui est effectivement, parle-moi du maniérisme, c'est plutôt une sorte de maniérisme amoureux contemporain, plutôt qu'au contraire une volonté d'accorder l'écriture à ce qui est râpeux, trash, en vrille, destructeur, nihiliste. Pas du tout, je trouve qu'au contraire, on a là dans une espèce de nouvelle Pléiade, une nouvelle Renaissance, c'est plutôt une écriture élisabéthaine pour moi. Et donc ça m'a plu, surtout la manière d'incanter, à l'Apollinaire, la manière dont il incante sa vie, il transforme sa vie en chanson. Sinon, ce qui lui arrive, moi, on a déjà vu ça tellement de fois que ça m'a beaucoup moins retenu. Et puis, on va peut-être en reparler. Les différents personnages faussement secondaires qui apparaissent, qui sont extraordinaires. Malik, le farfadet. Le farfadet,
oui.
Extraordinaire, le farfadet.
Jean-Christophe Briançon, Premier Regard sur ce livre de Capucine et Simon Johannin.
J'étais assez intéressé, comme Lucille, par le fait que ce livre soit écrit à quatre mains, parce que finalement, dans l'objet qu'il est, l'objet de communication quasiment qu'il peut être d'une certaine manière, en tant qu'objet livre qui serait le reflet d'un air du temps, je trouvais qu'il aurait été compliqué de l'écrire seul, en fait, puisque finalement, bon, une fois qu'on l'écrit seul, on peut toujours se faire croire qu'on capte l'air du temps. Dans le fond, on parle quand même nécessairement d'une certaine manière de soi. Mmh. Là, ici, je me suis dit, en écrivant à quatre mains, peut-être qu'enfin, on va réellement avoir des gens de 30 ans qui captent d'une certaine manière l'air du temps ou l'air de leur temps, en tout cas. Et ça se vérifie quand même plus tôt. C'est un livre qui effectivement capte quelque chose, aussi bien sur le fond, dans le discours qu'il peut avoir, un discours quasiment politique d'une certaine manière, quand il s'agit effectivement des différents métiers qu'il exerce, mais aussi dans la forme, puisque la forme rappelle, brasse, balaye comme ça tout un certain nombre de choses qu'on entend aujourd'hui. On a un peu d'une certaine manière, et c'est pas forcément un atout dans ma bouche, on a l'impression de lire une longue chanson de Fauve ou de lire un scénario de Virgile Vermier, ce genre de choses.
Je m'insurge. Alors déjà, comparer les trois,
c'est... Et moi, je trouve que c'est un problème. Enfin, c'est un problème pour moi.
Et d'une certaine manière, écrira comme ça, vous m'appellerez Jean-Christophe Briançon.
Je suis pas sûr que, à certains instants donnés du livre, il s'éloigne tout à fait de ce que peuvent faire ces musiciens et auteurs. Donc bon, il y a quand même une réussite due à la forme même et à l'idée même d'avoir écrit à deux. Ensuite, il rentre là encore dans tous les problèmes que peut créer sa forme, justement, d'une certaine manière. Une fois qu'il a capté l'air du temps, il s'y enferme et ça crée, on en parlera certainement, plein de problèmes, problèmes intellectuels, je dirais.
Bon, alors je suis obligé de réagir d'abord très vivement à ce que vous venez d'énoncer, Jean-Christophe Briançon, avec toute mon affection, bien sûr. Fauve, c'est évidemment le nom auquel je n'aurais tellement pas pensé en lisant Nino dans la nuit. Parce que moi, ça me fait un bien fou de lire un livre comme celui-là, de voir que de très jeunes gens, je crois qu'ils ont moins de 30 ans chacun. Vous dites 30 ans, ils ont moins. Ils sont peut-être même plus jeunes que vous, Jean-Christophe.
Même pas,
et c'est ça qui vous agace, au fond. Voilà.
Je ne sais même pas qui
bon, sont. Mais en tout cas, donc de très jeunes gens qui sont capables comme ça de redonner une telle énergie à la chose écrite dans un paysage quand même de la littérature française qui est très très sage, et du coup, et sans lui faire offense, Virginie Despentes prend un sacré coup de vieux, parce que quand on repense à Vernon Subutex et à ses tribus, qui peuvent être cousines de celles qu'on peut croiser dans Nino dans la nuit, on voit très bien que, oui, enfin, les jeunes, ce sont eux, et c'est pas du tout le talent de Virginie Despentes n'est pas remis en cause ici, mais les Johannins, ils sont pour moi vraiment aux prises avec une part de notre époque. Hein. C'est pas parce qu'ils sont à deux, ils vivent ensemble depuis suffisamment longtemps, qui décrivent mieux le monde. C'est leur monde.
Une fois à deux, on est obligé de s'extraire de soi, d'une certaine manière, dans l'écriture, j'entends.
Ils ont l'air très fusionnels, et d'ailleurs, pour le premier livre de Simon Johannin, c'était vraiment né aussi d'un travail en commun de photographie de Capucine, donc c'est quand même deux créateurs qui marchent tout à fait ensemble. En tout cas, ils écrivent sur le monde qu'on a créé, et puis vraiment, moi, c'est plus que sur les aventures, on va en reparler, les aventures de Nino, c'est la forme et un livre, évidemment, François-Angélique ne vous aura pas échappé, ce qui commence par paradis, point d'interrogation, pour finir par les enfers.
Et voilà,
aux enfers ou les enfers, les deux derniers mots.
Les enfers, les enfers. Des enfers.
Voilà. Donc,
premier rang des enfers, pardon.
Des enfers, paradis. Aux enfers, ben voilà, c'est beau, moi ça me touche beaucoup. Lucille Comeau.
Oui, c'est beau et c'est trop en même temps.
Mais oui, j'aime bien ce trop-là.
Oui, je suis d'accord, moi aussi ça me plaît plutôt aussi
c'est
parce que...
C'est comme Douglas Sirk, c'est trop, mais c'est pour ça qu'on aime.
Oui, exactement. Et là, c'est trop aussi dans la mesure où moi j'y vois un nombre de références dont on a parlé de Despentes, et il y a ce côté un peu Paris contemporain, très parisien, mais c'est aussi un côté parisien extrêmement vieillot. J'ai vraiment vu des choses un peu dans le style très fleuri, un peu franchouillard dans la manière dont les personnages s'adressent la parole, cette espèce de Paris de la magouille qui existe dans les films de Melville,
enfin un vieux
Paris,
loin, non,
Melville, un vieux Paris, mais quelque chose comme ça, des vieux gangsters, et en même temps, enfin avec par-dessus ça une sorte de voile, en effet de la contemporanéité la plus sensible, et ça c'est difficile à tenir, notamment sur la sexualité, vraiment je trouve ça assez assez passionnant. Parce que il a un style hyper cash avec des choses un peu potentiellement un peu misogynes qui peuvent un peu quand même affleurer de temps en temps dans le style parce que on emploie un vocabulaire très fleuri qui date un peu. Et en même temps, la sexualité qui est décrite, elle est extrêmement fluide. Et ça, je trouve ça assez fort de tenir ça dans un roman et dans un roman d'amour, quoi.
Jean-Christophe Briançon.
Moi, je n'ai absolument rien contre ce trop qui, en littérature, me gêne que très rarement. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est pas sur le plan du style que ce trop me dérange, c'est sur le plan de la démarche de ce qu'il essaye de nous dire, justement, en commençant de ce qu'ils essayent de nous dire, en commençant par Paradis, en terminant par Enfer. Il y a quand même, là aussi, je pense, un enfermement dans le réel, un réel qui voudrait que le discours un petit peu contemporain d'une certaine jeunesse voudrait que aujourd'hui, il soit plus compliqué qu'hier de faire des choses, qu'on soit enfermé dans une espèce de merditude contemporaine dont il serait impossible de sortir, bon, etc. C'est un discours qui est assez enfermant, finalement, et qui, à être contemporain, ne l'est que finalement très peu, parce que c'est quand même... C'est toutes ces histoires de la fin de l'histoire, c'est quand même quelque chose qui date un petit peu. Et là, en commençant par Paradis, en terminant par Enfer, justement, finalement, il pose un constat par sa vie, il pose un constat par leur vie à eux, cette vie qui est difficile, et ils y répondent, finalement, en ne disant rien d'autre que bon, bah, de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que de profiter de ce monde, et à la fin, on ira aux enfers, et c'est pas grave, c'est bon, c'est la jouissance par-dessus tout, et après, et le reste, peu importe. Bah, de fait, c'est ça, puisque peu importe ce qu'ils essaieront de construire, à la fin, ils auront fait la fête et ils s'en foutent, ils finiront au premier rang des enfers.
Ah oui, alors bon. Vraiment, moi, ouais, je trouve
pas la même lecture.
Non, vraiment pas du tout cette lecture-là, c'est pas du tout un livre nihiliste, il y a une vraie radicalité politique, en effet, elle est pas du tout déclarative. Bah,
en dehors de son individu, par le biais de son histoire d'amour, à quel moment ce jeune homme vit ou nous montre quelque chose qui ne soit pas nihiliste?
Ah bah quand il parle de la société d'aujourd'hui, des classes moyennes qui vont crever du cancer parce qu'ils bouffent les merdes qu'ils achètent à Carrefour et qui sur le travail par exemple, il y a un vrai discours. Pour moi, il y a
on s'en
fout pas, ils sont vraiment en galère. Enfin, ils vont quand même assez loin dans le refus de la société de consommation et dans
à quel moment ils décident de s'engager dans cette société pour faire en sorte que sa vie soit autre et que la société soit autre éventuellement.
Ils s'engagent pas dans un mode traditionnel de l'engagement politique, ça c'est.
Ah non, mais même sans être politique, ça peut juste dans le discours, dans son discours à lui.
François Angelier.
C'est pas un livre réaliste. J'ai l'impression qu'on a affaire à un roman, à vous écouter, qui serait un roman qui tenterait de traduire par une forme littéraire extrêmement travaillée, ouvragée, le rude destin de la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est pas du tout un roman réaliste. Et pour moi, c'est un poème. Alors, évidemment, l'histoire, pour moi, quand dans ma lecture du texte, est passée complètement au second plan. Il y a un départ complètement hallucinant. On est à la Légion étrangère, dont il se fait bouler, on ne dira pas pourquoi, mais avec une description qui est pas mal d'ailleurs. Moi, je regrette, en fait, je voudrais qu'en un autre volume, il y reste à la Légion.
D'accord.
Ça m'aurait Nino intéressé 2. De voir que Nino à la Légion, ça m'aurait. Bon, il y a ça, après, il y a toutes ces espèces de péripéties, de petits boulots. À un moment, il est mule. Le lendemain, il travaille comme serveur chez un traiteur qui organise des événements et tout ça. Mais c'est pour vrai par rapport à la langue. Et je trouve que ce qu'il met au premier plan, c'est le travail du rythme, de l'incantation, les mots, les couleurs, le lexique, cette manière de barater, de brasser, de bétonner la langue française en permanence. Ça m'a... Alors peut-être
on
que
peut
je...
pas les distinguer, enfin, ça se met au service très précisément du rythme de vie qui décrit.
Ça gagne, le pas il est là, je veux dire, s'il y a un pas gagné dans ce roman, il est dans la langue. Beaucoup, beaucoup plus que dans l'histoire qui pourrait se raconter de centaines de manières différentes. Ça pourrait être un polar, ça pourrait être justement un roman réaliste, ça pourrait être un roman à thèse et tout. Non, c'est une sorte de décharge poétique. Et pour moi, c'est ça qui gagne, c'est pour ça. Beaucoup plus que... Même si on parlait des personnages, il y en a qui sont extraordinaires. Il y a le farfadet qui vit dans sa cave, dont on ne voit jamais le visage, puisqu'il est toujours encapuchonné, qui tire sur un joint énorme, t'as l'impression que ça le dissout dans l'air, et qui fabrique des petits bijoux avec des clandestins afghans. Je trouve Alors là, allons-y, ce personnage d'une poésie extraordinaire. Là, on est dans un... Alors là, on retrouve le Paris, qui peut être celui de Carco, d'Apollinaire, même le Paris de Rétif de la Bretonne. C'est une espèce de figure... traditionnel du merveilleux parisien. Alors, je pense pas que le merveilleux parisien soit tout le temps au rendez-vous de Nylon dans la nuit, mais là, il y a ça. Pareil pour Malik, le travesti, dont il arrive à lasser le corsaire avec difficulté. Voilà, donc c'est... Voilà. Mais c'est pas un roman réaliste. Pour
Lucille, comment pour finir?
Moi, je pense quand même qu'il y a une volonté réaliste, et elle me touche vraiment assez directement. Je regrette seulement les dialogues, je les trouve vraiment très pauvre par rapport à cette logorée. C'est comme si le caractère un peu romanesque classique essayait de rentrer pour faire avancer un peu l'action. Et c'est dommage parce que je trouve que ça perd vraiment beaucoup en charge.
Ouais, différents registres de langue, mais je pense que les dialogues sont évidemment à dessein écrits comme ça.
Peut-être, bon, ça vous a gêné. ça met quelque chose à distance, ça m'a vraiment gêné.
Bon, faites-vous votre avis par vous-même. Lisez Nino dans la nuit de Capucine et Simon Johannin chez Alia. Et à suivre dans la dispute, on va parler des livres d'Hélène Frappa, d'Hélène Zimmer et de Yannick qui ne s'appelait pas Hélène Hennel.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée à la littérature avec le dernier fleuve d'Hélène Frappa, chez Actes Sud, pas de scène d'introduction dans ce roman qui est comme un conte puisqu'on y découvre tout de suite deux enfants, deux frères, Mo et Jo. Mo, l'aîné, portant Jo sur son dos. D'où viennent-ils? Mystère, où vont-ils? Ils ne le savent pas plus que nous jusqu'à ce qu'ils trouvent un fleuve. S'approcher du fleuve, c'était pénétrer dans un espace transparent, une matière vibrante comme l'air, un horizon au bord duquel le ciel pourtant glorieux pâlissait. Mo aussi aurait voulu y boire, s'y plonger, ouvrir grand la bouche, jusqu'à ce que la source claire circule à travers son corps, inonde ses artères et ses veines, qui de rouge deviendraient bleus, tout son sang bleu et sa peau, son squelette, son cœur, ses yeux, fondus en un fleuve plus léger que la terre, plus lourd que le ciel. Sur la rive herbeuse, les vaguelettes semblaient jaunes. S'il n'y avait eu la brise qui agitait doucement les chaînes entourant les tables et ridait en petits cercles vibratoires la surface de l'eau, le courant animant le fleuve impassible demeurait son secret. Où se dirigeait cette masse d'eau si vaste que l'autre rive se perdait dans l'horizon bleuté? Une minuscule vague lécha malicieusement le pied de Mo qui recula en perdant l'équilibre comme sous la morsure d'un serpent. Les serpents. Mais qui lui avait appris à distinguer les méchantes vipères des couleuvres inoffensives? Tu dois observer la pupille du serpent et les écailles au-dessus de sa tête. Des bribes lui revenaient en mémoire sans aucun visage associé. À la vue de son frère par terre, Jo, sincèrement effrayé, ou bien jouant la comédie du docteur, courut vers le fleuve et y plongea les mains pour asperger le visage de Mo. L'eau était fraîche, douce, bienfaisante, délicieuse, car Mo la goûta. Ils n'avaient pas bu depuis que leur réserve d'eau de source s'était trouvée épuisée la veille. Elle était magique aussi. Mo, redevenu plus enfant que son petit frère, roula sur lui-même plusieurs fois et, éclatant d'un rire strident, atterrit dans le fleuve, où il entreprit de s'ébrouer comme un chien, aussitôt rejoint par Jo qui hurlait de joie. Sous leurs pieds, un tapis d'herbe descendait en pente douce vers une bande de sable et de vase. Ils tournaient sur eux-mêmes en s'aspergeant. Le fleuve leur entrait dans la peau, les poumons, les yeux. Le fleuve redonnait vie aux deux frères affamés et sales. Le dernier fleuve, nouveau livre d'Hélène Frappa chez Actes Sud. François Angelier commence à nous en parler.
Alors, Le Dernier Fleuve, c'est une nouvelle corde à l'arc, déjà très fournie en corde d'Hélène Frappa, puisque si on remonte un petit peu dans sa bibliographie, il y avait Lady Hunt, qui est un thriller gothique. Et il y avait N'oublie pas de respirer, qui est plutôt un récit autobiographique sur son enfance. Et puis, par ailleurs, il y a un récent livre sur Tony Servillo, le cinéma italien. Donc, en plus de ça, c'est quelqu'un qui est traductrice, qui traduit l'anglais, l'italien. Donc là, on découvre
une nouvelle... Qu'on connaît bien à France Culture aussi.
Voilà. On découvre une nouvelle Hélène Frappa qui est conteuse avec, selon moi, un dernier fleuve qui est vraiment réussi, totalement abouti et qui décroche complètement de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire de Nino dans la nuit, puisque là, on est dans une sorte d'intemporalité mythique qui confine parfois même une sorte de récit cosmique avec ces deux personnages, Mo et Jo, qui nous sont sont livrés comme sortant de l'horizon, l'un portant l'autre, comme des figures comme ça de la mythologie indienne ou grecque, et puis qui vont entretenir avec ce fleuve qu'ils découvrent un rapport qui est un rapport à la fois nutritif, je veux dire presque mythique, pédagogique et initiatique. C'est surtout un grand roman initiatique puisque le fleuve est traité par Hélène Frappa non pas comme une sorte de puissance de perdition où l'on se noie, où l'on se déplace, mais comme une sorte de grand animal, tantôt bienveillant, tantôt malveillant, avec lequel ses deux frères, le grand et le petit, vont entretenir des rapports. Donc le fleuve, c'est à la fois une puissance fantastique, parce que par moment, l'un des deux, qui a des capacités chamaniques, arrive à extirper du fleuve une sorte de forme comme ça, des formes incantatoires. Il y a des animaux, il y a la faune, il y a tout ça, et en même temps, il y a le peuple du fleuve, celui qui vit sur les îles, qui sont posées là comme une sorte de barque à l'arrêt. Donc voilà, c'est un grand conte initiatique, un récit cosmique, une sorte de grande tentative de penser le rapport entre l'homme et cette matière fondamentale qui est l'eau. Voilà, donc
je reviendrai vers vous, François Angelier. Je vais d'abord écouter Jean-Christophe Rianchon à présent sur Le Dernier Fleuve.
Je suis tout à fait d'accord avec François. J'ai trouvé ce livre absolument...
Et c'est un bon point, selon François Angelier.
Absolument abouti. Enfin, abouti, je ne sais pas
obligé,
si c'est à moi de
savez.
Le dire, mais en tout cas, non, je ne suis pas obligé, je ne me serais pas forcé d'ailleurs. Non, j'ai trouvé ça très intéressant et pour autant, j'avais un petit peu peur, parce qu'à vrai dire, alors ça va paraître bête au départ ce que je vais dire, mais c'est vrai que tous les romans qui utilisent l'eau comme puissance ou comme force allégorique me font toujours un petit peu peur, parce que ça peut être une image un petit peu facile ou un peu lourde, surtout que bon, là en l'occurrence cet auteur est universitaire de formation, agrégé de philosophie, je me disais bon, elle va nous parler de l'eau, alors là,
ça va être compliqué.
Oui, manifestement, mais bon, en tout cas c'est vrai que ça me fait un petit peu peur, je me dis on va tomber dans les poncifs d'Héraclite ou autre.
La forme de l'eau, votre film préféré de l'an dernier, je crois.
C'est ça. Pour nous expliquer qu'on se baigne jamais deux fois dans le même. Bon, alors ça me faisait un petit peu peur, quoi. Mais en l'occurrence, pas du tout, parce que réellement, elle s'empare de l'eau comme effectivement puissance mystique et allégorique, mais pour en faire réellement une littérature d'expérience et non pas une littérature de pensée. C'est une littérature qui est assez paradoxale, qui utilise le mot pour finalement parvenir à atteindre le corps. Et donc ça utilise le mot comme étant ultime possibilité de finalement réatterrir là où la pensée nous empêche d'être, c'est-à-dire ici, quoi. Et ça, je trouve ça très intéressant, cette capacité qu'a l'auteur pendant toutes ces pages à utiliser la littérature et la langue pour réussir à nous faire réatterrir sur Terre et pour réussir à nous faire la preuve de la littérature comme étant un pur moment d'expérience et un moment organique. Je trouvais ça particulièrement réussi et particulièrement fort. Après, il y a quand même quelques petites
qui m'ont peut-être un peu agacé,
mais bon, globalement, ce livre est vraiment formidable.
Côté positif pour l'instant, avant de vous retrouver, Jean-Christophe. Lucille Comeau, sur ce livre d'Hélène Frappa.
Oui, c'est surtout l'écriture qui est vraiment magnifique. Hein. Moi, j'ai aussi quelques réserves sur la forme et sur la peut-être la multiplication, la superposition des structures. Vous parliez de contes, il y a aussi la genèse, le contrat social. C'est extrêmement riche tout ça. Mais au niveau, peut-être à l'échelle de la page, il se passe quelque chose d'assez miraculeux dans la manière dont elle utilise les mots et les images. Là, pour le coup, la métaphore du fleuve, elle fonctionne aussi pour la décrire, quoi, son écriture. Surtout qu'il fonctionne par synesthésie totale, c'est-à-dire que tout est dans tout, que tous les effets sensuels peuvent produire des mots. Il y a un moment donné où les enfants, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants hein, autour de ce fleuve, se retrouvent en classe, puis il y a une dame qui les prend en charge pour une belle dame, pour leur faire la classe, et ils doivent écrire des poèmes de plus en plus sophistiqués. Ils doivent d'abord nommer le monde, puisque le verbe arrive au bout d'un moment dans la Genèse, et puis après ils doivent écrire des poèmes, et puis il est dit que le poème se mastique, et ça c'est tout à fait la langue d'Hélène Frappa, c'est une langue qui a une matière c'est assez incroyable, presque vertigineux. Moi, il y a eu des moments où c'était presque trop pour moi, parce que ça remplit presque parfois un peu jusqu'à la nausée. Après, oui, j'ai des réserves sur la forme, dans ce que je commençais à expliciter un peu, qui est, moi, je vois beaucoup la structure, alors peut-être qu'elle est plus universitaire, mais j'ai l'impression de voir beaucoup les effets de forme qui structurent le récit, donc à la fois la Genèse, l'eschatologie, en effet, toute une mythologie dont on peut imaginer qu'elle est, que je ne connais pas, mais qu'elle est tout à fait assez exotique pour nous, mais aussi donc le contrat social rousseauiste. Je vois aussi beaucoup de références, mais là vous saurez sans doute mieux que moi, François, à toute une littérature un peu d'heroic fantasy, ou en tout cas fantastique, qui regarde vers ces êtres que les enfants inventent, les langues inventées, ces espèces d'allers et retours permanents entre des lieux pour découvrir un territoire, qui bon, moi en plus, sont pas tellement ma tasse de thé comme type de littérature. Donc tout ça produit un peu un effet de surcharge, et je dirais même que ça va un peu à l'encontre de son écriture. Son écriture, elle est tellement belle, c'est tellement sensuel et charnel, que le côté très cérébral de la structure m'a parfois un peu gênée.
Peut-être une réponse d'abord tout de suite de François Joliet par rapport à cette
Moi, j'ai pas du tout trouvé de cérébralité. Au contraire, je pense qu'on est, je dirais, avant la cérébralisation de l'individu. On est dans un monde où les gens doivent survivre, et au sein d'un univers qui est à la fois très méchant et très enchanteur. Et donc, ces deux enfants qui n'ont pas un cerveau, je dirais, d'adulte extrêmement développé, doivent se battre avec leur audace et leur enchantement, leur émerveillement. Et si je devais qualifier ce roman, je dirais que c'est le contraire d'une Robinsonade de type Vernienne.
Ça, c'est sûr.
La Robinsonade, ce sont deux enfants, mettons, formés dans les meilleurs collèges, appartenant aux meilleures familles, que le destin cruel arrache à leur bonne ou à leur professeur, et qu'on les lâche sur une île, et ils se débrouillent tout seuls, et ils redécouvrent, ou ils mobilisent tout leur savoir. Et bon, là, pas du tout. C'est le contraire d'une Robinsonade, c'est-à-dire que les enfants ne savent rien, et découvrent en eux des espèces de capacités à la fois physiques et intellectuelles.
Oui, c'est les enfants sauvages. Mais ce dont vous parlez, Lucile Comeau, j'attendais une réponse. Là, vous répondez par le récit, mais là, c'est la question de la
non,
forme,
j'ai
la question de l'intention de l'auteur et de la construction même.
J'ai pas
même.
Trouvé que la forme était quelque chose qui alourdissait et qui mobilisait l'attention du lecteur. Moi, je me suis complètement laissé avoir, peut-être, par... J'ai pas pensé à Rousseau, j'ai peu pensé à l'heroic fantasy, qui, au contraire, est un univers littéraire extrêmement codé, extrêmement régulé, avec des figures qui semblent un peu découpées dans le carton. On l'a pas du tout. On est dans une sorte d'enchantement. J'ai pas du tout trouvé que la forme faisait obstacle au flux du récit.
Je crois, juste pour intervenir un instant et vous laisser réagir, je crois qu'on peut aussi très bien lire ce livre d'Hélène Frappa au premier degré, vraiment, en suivant un récit et sans avoir ces couches métaphoriques, même si l'eau est l'obsession de Christophe Brianchon. mais parce qu'elle est en même temps aussi pas du tout métaphorique, ce fleuve, il est bel et bien réel. Et j'ai été très heureusement surpris par la fin de ce livre, que je ne divulgacherai évidemment en aucune façon, et que j'ai trouvé très belle, très forte, très concrète, mais en même temps, évidemment, on peut y empiler des strates d'interprétation, de signification, mais ça peut se lire aussi vraiment de façon... Oui, mais bon, votre cerveau trop bien fait, Lucile Comeau, dévoile les structures et les superstructures. Jean-Christophe Brianchon.
D'une certaine manière, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, parce qu'effectivement, ce livre, et c'est aussi là où elle réussit vraiment son tour de force, c'est qu'elle parvient à écrire réellement à hauteur d'enfant en s'adressant à des adultes. Et écrivant à hauteur d'enfant, effectivement, elle nous place dans des yeux qui ne peuvent de toute façon penser et vivre le monde qu'au premier degré. Donc d'une certaine façon, il est possible de vivre par la puissance de son écriture cette expérience au premier degré, mais malgré tout, alors c'est peut-être le défaut qui est le nôtre en tant que critique, malgré tout, une fois qu'on lit ce livre, nécessairement on observe sa structure, et de fait sa structure est faite de telle façon qu'elle permet à son auteur non seulement de nous dévoiler les rapports de son livre, de son histoire avec certains concepts, mais aussi de nous dévoiler ce que, écrivant ainsi, elle va pouvoir, elle, en tant qu'auteur, faire. Donc effectivement, tous ces allers-retours, parfois entre des lieux et d'autres, entre l'île, les rives, etc. Bon, ces allers-retours lui permettent aussi, à chacun de ces instants, de s'ancrer, alors sans que ce soit, c'est pas grossier, hein, mais d'une certaine manière, de s'ancrer à chaque fois dans un genre ou dans un style différent. Et ça fait parfois un petit peu une structure qui nous ramène à une forme d'exercice de style, mais qui de toute façon fondamentalement est maîtrisée. Donc c'est pas en soi un problème, mais c'est vrai que ça existe tout de même.
C'est le comment ?
Ah oui, c'est tout à fait maîtrisé. C'est drôle que vous parliez de Robinsonade, parce que moi, quand j'ai lu le roman, au début, c'est vraiment ce que j'ai noté tout de suite. Et c'est une forme que j'adore, parce que justement, elle est très ouverte et qu'elle est ludique. Et c'est vrai que j'ai senti une sorte de fermeture à un moment donné. Après, donc, les enfants construisent une première maison. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a d'autres maisons, donc du coup, il y a fait social mal de toute façon. Je trouve que ça tourne à la fable philosophique. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup pensé à ça comme forme. Et où, du coup, ça clôt beaucoup de choses que j'aurais préféré vivre au premier degré, oui, en effet.
Ouais, mais il y a plusieurs régimes, encore une fois.
Juste, Jean-Christophe. Alors, on le dira pas, comme vous l'avez dit, mais de toute façon, effectivement, à un moment.
On le dira pas, mais disons-le.
Non, pas du tout, mais je veux dire, à un moment, effectivement, d'une certaine façon, on peut avoir le sentiment d'être enfermé dans quelque chose, mais l'ouverture qu'elle finit par trouver permet justement exactement de s'extraire de ça. Et c'est assez malin parce que finalement, elle est évidemment consciente de ce qu'elle fait. De toute façon, elle est évidemment consciente du côté fable philosophique de son livre. Et cette ouverture-là qu'elle trouve, qui est particulièrement belle, lui permet tout à fait de s'échapper de ce cul-de-sac d'une certaine manière.
Et là, François Angelier valide.
Absolument. Le delta s'ouvre à nous.
Le dernier fleuve d'Hélène Frappa, publié chez Actes Sud. C'est le moment du coup de cœur de Jean-Christophe Briançon pour un livre dans lequel il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau, a priori, mais de la peinture, enfin, si davantage.
J'imagine qu'il en faut un petit peu.
La solitude Caravage, un livre de Yannick Hennel, chez Fayard, ai-je bien noté ?
Tout à fait, bon. Chez Fayard.
Chez Fayard.
Voilà. Je vais peut-être faire juste un petit historique personnel de ce qui m'a amené à ce livre, parce que je voudrais absolument que les gens...
Vous commencez toujours par le biais. Ouais, attaquer, là.
Non, je voudrais que les gens le lisent, et je voudrais que les gens qui ont un a priori, peut-être parce que cet auteur étant célèbre, ont un a priori sur lui, puissent le dépasser comme moi j'ai pu le dépasser, puisque je suis pas nécessairement particulièrement fan de son travail toujours, mais il se trouve que bon, j'ai bien aimé Tiens, ferme ta cour l'an dernier, et puis, en l'occurrence, en particulier un texte qu'il a écrit dans la revue Décapage le mois dernier, qui était vraiment très beau. Et quand j'ai vu donc qu'il publiait un nouveau livre, je me suis dit, bon, il faut y aller quand même, ce texte m'a donné envie.
Donc,
et là, c'est particulièrement
Yannick
malin, c'est Yannick Hennel. Puisque, bon, sous prétexte de nous parler de peinture, du Caravage, de son rapport à la peinture, comme beaucoup d'auteurs ou d'artistes peuvent le faire, en érigeant la peinture comme étant supposément un art supérieur à beaucoup d'autres, Godard ou autres utilisent cette rhétorique ou cette pensée. En tout cas, là, sous couvert de nous parler de ça, il fait en fait tout à fait autre chose, et réellement un roman, ce qui est d'une certaine manière une prouesse, parce que le livre n'est pas du tout construit comme tel. C'est un livre qui est assez long, construit de beaucoup de très courts chapitres, de 53 chapitres, qui chacun, d'une certaine manière, brosse le rapport que Yannick Hennel peut entretenir avec la peinture et avec le Caravage en particulier, effectivement. Mais c'est là où réellement il redevient romancier, bien qu'étant à cet endroit-là du livre un intellectuel avant tout. Il parvient de chapitre en chapitre, ces chapitres étant très courts, c'est quand même très difficile de créer une dramaturgie, mais il parvient à chaque fois à mettre un petit peu de lui, à mettre de son histoire, puisque le point de départ finalement de son rapport au Caravage sera une histoire d'amour, l'histoire d'amour qu'il a entretenue, histoire fantasmée avec la Judith du célèbre tableau de Caravage, de Judith égorgeant Holoferne. C'est une histoire d'amour fantasmée donc qu'il a eu avec cette femme-là, puis qui par la suite s'est rabattu sur une femme qui a réellement existé dans sa vie, qu'il a considéré être cette Judith, et donc le point de départ du livre se trouve être la séparation d'avec cette femme, le jour où elle se rencontre, qu'elle est en fait la transposition que son amoureux avait faite de Judith dans cette peinture. Donc à partir de là, il nous parle à la fois avec une très très grande érudition du Caravage, une très très grande érudition, une très grande sensibilité de son rapport à cette peinture et à la peinture en général et à cette peinture, mais parvient aussi à faire un roman, d'une certaine manière un roman d'amour pour le Caravage, pour la peinture, mais aussi pour toutes les femmes que la peinture aura permis à cet auteur d'aimer, puisqu'il nous raconte que finalement tous les livres, il les a écrits non seulement en vertu de ce que la peinture a pu lui faire aimer, mais aussi pour, à chaque fois, pour une femme.
La solitude Caravage, c'est le titre du livre de Yannick Hennel chez Fayard. Et puis, comment est dans les coups de cœur, j'ai un coup de cœur hebdomadaire pour l'émission Mauvais Genre de François Angélus le samedi soir sur France Culture, donc j'aimerais bien connaître le sommaire à l'avance.
Alors samedi, nous recevons Franck Bouys pour deux romans qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. L'un qui s'appelle Né d'aucune femme, qui a quelques liens avec ce dont on va parler. Et l'autre qui est Oxymore, alors là qui est un polar anguleux, violent et noirissime, comme on dit. Voilà, donc c'est un des forts talents du polar français que nous accueillons à Mauvais Genre samedi.
France Culture, la dispute. Arne Laporte. Get the right guy.
Dernier livre à notre sommaire, Véron d'Hélène Zimmer chez POL. Quand Véron quitte sa campagne miséreuse et arrive à Paris, en 1909, elle a 20 ans et elle a un bébé dans les bras. C'est un roman d'émancipation brutale, dira-t-on, au cœur d'une Europe aux envies révolutionnaires vivaces et une héroïne qui s'épanouit dans le mode de vie des anarchistes et puis qui va vite adhérer à l'idéal d'un féminisme radical. Il y a beaucoup d'autres choses encore dans ce texte d'Hélène Zimmer.
Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter.
Zulma est assise en tailleur sur le matelas, adossée au mur. Son corsage est délacé, le petit est allongé sur son bras contre son sein. Elle tressaille, décroche la punaise qui perce sa chair près de son aisselle. Les lèvres de Victor s'entrouvent, sa tête part en arrière, elle la retient avec son coude, allonge Victor sur le lit, le couvre, renoue son corsage. Elle va vers la table, la mèche est allumée. Victor, le grand, lit, assis sur la chaise. Zulma se sert d'absinthe, pose la bouteille. Le cul tache une feuille, l'encre bave. Zulma boit. Sa peau est irritée par le froid, gonflée de piqûres. Victor la regarde sans choisir, l'œil droit, l'œil gauche. Il se lève d'un coup, ferme les yeux, retrouve l'équilibre. Zulma attrape son visage et appuie ses lèvres. Défait sa ceinture, s'assoit sur la table sans le lâcher. Victor halète, plonge la tête, se perd à l'intérieur. Les prix résonnent dans les halles, Zulma ralentit, Hummler, Victor dans l'écharpe est brûlant. Zulma s'approche des saucisses sèches, se joint au groupe de chalands. Le boucher fend un carré de côte, la femme encaisse, Zulma se gratte la tête, attrape une saucisse, vite. Un homme la remarque, se hisse sur la pointe des pieds pour se faire voir du boucher. Zulma disparaît dans la foule. Le gras de la saucisse se mêle à la sueur de sa main, elle atteint une sortie. Les flaques d'eau devant elle réverbèrent vivement la lumière. Des fans de carottes pendent du dernier étal. Elle saisit une botte. La blancheur du ciel l'oblige à courber la tête.
Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. On rêve amour au-delà des frontières, on rêve amour aussi de ton côté. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout, debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher.
Il faut avoir, vous l'avez peut-être entendu, un sacré souffle pour lire Véron. Sérieusement, la phrase d'Hélène Zimmer va si vite. Les mots claquent, les scènes se succèdent. C'est un montage très cut. Moi, j'étais tout le temps essoufflé en lisant, mais même pas haute voix, ce livre. Mais bon, au-delà de ça, je reviendrai tout à l'heure dans la discussion. Jean-Christophe Brianchon. Pour commencer sur ce Véron chez POL.
Montage et une écriture qui effectivement change peut-être un petit peu de ce qu'Hélène Zimmer faisait auparavant, puisqu'on a pu lire pour certains d'entre nous Fairy Tale en 2017, qui était chez POL. Puis après, elle s'est aussi adonnée à d'autres genres. Elle a écrit le scénario d'un film de Benoît Jacquot, du journal d'une femme de chambre, et réalisé son propre film aussi, qui s'appelait À 14 ans, qui était très bien. Donc c'est à chaque fois des genres très différents. Et là, encore une nouvelle écriture qui nous parle donc de la trajectoire de Zulma, qui est une jeune femme d'a priori une vingtaine d'années, qui vient d'accoucher, qui arrive dans le Paris de la Belle Époque, voilà, au début du siècle dernier, et qui essaye de s'y faire sa place de femme et sa place, on va dire, économiquement aussi, tout bêtement, sa place de sa survie, et donc survie qu'elle trouvera en intégrant une espèce de communauté politique qui s'approche des mouvements anarchistes, mais bon, dont personnellement je n'ai pas la science politique qui me permet exactement de savoir où est-ce qu'il se situait, a priori en tout cas proche de l'anarchisme. Et donc c'est une histoire assez simple, mais qui est assez maligne aussi, dans la mesure où, comme dans ses précédents travaux, elle cherche avant tout à nous brosser le portrait de la trajectoire d'une femme, et elle le fait ici en établissant un parallèle assez intéressant, j'ai pensé, entre ce que c'était à cet instant-là, mais comme ça pourrait l'être aussi aujourd'hui, d'être une femme et de faire de la politique, en ce sens où cette femme-là toujours sera traitée dans ce livre comme un corps allaitant, un corps accouchant, un corps malade, un corps, bon, qui passe par plein d'étapes, donc un corps auquel la femme pouvait être et peut encore être parfois ramenée de manière pas toujours juste, de manière injuste même, et de cette même façon, faire de la politique sera traité là aussi comme parfois quelque chose de sale, où on tracte, où on est dans la rue, où voilà, il y a du bruit, les rues de Paris sont bruyantes, et faire de la politique à ce moment-là, c'est violent aussi, donc c'est sale, etc. Donc aussi bien le fait d'être une femme que de faire de la politique sont traités dans ce que ça peut avoir de plus concret, d'être un corps de femme et de faire de la politique, mais c'est traité pour justement très rapidement finalement l'évacuer et nous amener à ce que réellement peut être le fait de se faire une place en tant que femme à cet instant-là, donnée de la France et de Paris, et être et faire de la politique. C'est-à-dire que bon, l'auteur nous amène petit à petit à nous extraire de la concrétude pour, dans un espèce d'élan d'espérance qui peut être un petit peu idéalisé, nous amener à sortir de la concrétude pour nous montrer qu'autre chose est possible. Cette femme sera une femme malgré son corps, la politique sera de la belle politique malgré ce qu'elle peut avoir aussi de plus concret. Et donc c'est un parallèle qui est assez intelligent, assez beau, mené avec une écriture dont on va parler, qui elle aussi est assez surprenante.
Lucile Comeau, sur Véron d'Hélène Zimmer.
Oui, alors je pense que j'ai un peu le même point de départ que Jean-Christophe, mais pas du tout le même point d'arrivée. Moi, je suis assez passionnée, en effet, avec ce qu'Hélène Zimmer fait avec le naturalisme, parce qu'en fait, qu'elle soit au cinéma ou en littérature, elle travaille cette matière-là, qui est quand même la matière noire du XXe siècle, du moins en termes de littérature. Après, cinéma, c'est encore autre chose. Et là, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment la filiation avec la littérature naturaliste classique. Et là, vous lisiez un passage, notamment les Halles, bon, c'est le ventre de Paris, ça saute aux yeux, jusque dans cette immense métaphore qui est presque la forme du livre, entre la ville monstrueuse et le corps féminin, qui est quand même un des gros sujets de la littérature du 19e siècle. Sauf que là, elle le fait avec une volonté antilyrique absolue et avec un style absolument contemporain, du coup, qui, du coup, décape totalement la question du féminin dans la littérature naturaliste. Et moi, ce que je trouve passionnant, c'est que la structure, là pour le coup encore un effet de structure, mais qui je trouve vraiment a vraiment beaucoup de sens, c'est que tout le temps, tous les temps du récit sont des temps liés au corps de la femme. C'est-à-dire que ça commence par un accouchement, ça finit par un accouchement, et tous les retournements, les possibilités, les tensions sont liés à tout ce qu'il y a de plus bas, à savoir les règles, les douleurs d'avant les règles, les glaires, les miasmes. Ça, je trouve ça absolument passionnant, et surtout extrêmement bien écrit. Et c'est là que je vois pas du tout de parallèle entre la question politique et la question féminine. En fait, la question politique, j'avoue, même parfois, je me suis un peu demandé ce qu'elle faisait là. Parce que oui, on est en 1909, il y a des éléments contextuels, c'est parfois dit de manière tellement fine qu'on comprend pas tout de suite. Il y a par exemple un passage où elle doit sortir de chez elle en gondole. Je me dis, mais comment ça en gondole? Puis je me suis rappelé en effet de la grande inondation. Ouais. Mais oui, elle est à Venise. Ouais. Et en fait, il y a cette fameuse grande inondation 1909, Paris sous les eaux. Et c'est dit avec une rapidité, c'est juste un passage comme ça, ça c'est très bien.
J'ai repris la page aussi.
Oui, c'est étonnant. Moi aussi, je suis revenue en arrière. Voilà, c'est quand même, il faut une grande attention. Mais par contre, il y a des choses un peu plaquées. Et par exemple, le personnage de Clotilde, qui est aussi un personnage féminin, prend en charge, à l'inverse de Zulma, qui est un personnage muet, tout un discours que je trouve assez étonnamment artificiellement amené. Bon, j'y connais rien à l'histoire de l'anarchisme, mais ça me paraît être un petit peu une compilation de petites choses. Et du coup, je vois pas bien ce que ça vient faire là. Le parallèle entre le corps féminin, la question féminine, etc., le naturalisme, tout ça, et la question anarchiste de cette époque-là, bon, c'est pas vu hier, quoi. Je comprends pas exactement ce qu'on veut nous dire avec ça.
Est-ce que François Angelier a des réponses
à moi, ces questions? Je compte sur les mêmes positions que Lucille Comeau. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle m'a piqué mes notes dans le vestiaire, parce que c'est exactement
le
ce que j'avais
vestiaire de la dispute.
Envie de dire. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans Véron d'Ellen Zimmer, c'est non pas ce que ce livre est, mais justement ce qu'il veut absolument pas être. C'est-à-dire qu'un sujet pareil, traité par n'importe quel autre romancier, on aurait eu effectivement un roman post-naturaliste avec accumulation de fiches, notation d'époque, tentative de recréer une atmosphère, de recréer des figures, emprunt à certains événements, tout ça placardé, affiché, stabiloté véritablement. Et là, au contraire, il y a une volonté de rester, de se dessaisir complètement des pièges du naturalisme en restant, en se contenant sur, je dirais, les simples énergies de la vie. C'est-à-dire qu'on est là, c'est un peu comme, à la limite, je ne veux pas dire comparé au dernier fleuve, mais il y a une volonté de ne pas s'embourber dans l'histoire et dans l'historique, et même de s'embourber dans l'historicité.
Vous m'avez pas piqué mes notes de le vestiaire, François, parce que qu'est-ce qui va me rester à dire? Non, je vous en prie, continuez, mais je raille au fur et à mesure.
Alors, la question, est-ce que c'est possible? C'est ça le problème. Et moi, je pense que ça n'est pas totalement possible. On ne peut pas travailler une matière historique aussi épaisse, aussi dense et aussi riche que celle que travaille Ellen Zimmer, c'est-à-dire la vie d'une femme pauvre avec un enfant à charge en permanence dans le Paris et dans la France de la Belle Époque, quand elle fréquente effectivement les milieux fourriéristes, les milieux phalanstériens, les milieux qui travaillent aussi la révolution féministe avec énormément de choses sur le corps de la femme, sans s'impliquer plus dans l'histoire. Je trouve que là, l'histoire manque un peu. On est dans l'énergie, on est dans des affects, on est dans une espèce de plus pulsion permanente, comme ça, quelque chose qui effectivement est monté serré, était assez haletant, mais l'histoire manque quand même un peu.
Alors j'ai noté, alors je reprends mes notes, on n'est pas dans un roman historique, vitalité, rapport au présent très fort, mais c'est vrai que c'est induit par l'écriture aussi, on est au présent avec Véron, plongé dans cette ville dont à laquelle elle, quand même, elle ne comprend pas grand-chose, les rapports avec les uns, avec les autres. On apprend avec elle, et c'est comme ça qu'elle s'en sort finalement, Ellen Zimmer. C'est-à-dire elle a certes une documentation, une base historique, mais comme on la découvre par les yeux de Véron, si je puis dire, du coup, il y a une sorte de naïveté, et donc elle n'est pas obligée d'être tout à fait explicite, elle l'est d'ailleurs très très peu, et on voit ce qui intéresse Véron, et donc ce qui intéresse Véron, c'est effectivement la question féminine, c'est cette séance de découverte, à la découverte du clitoris, par exemple, enfin, parce qu'il n'y a pas que les douleurs, quand même, il y a aussi... Non, mais il y a essentiellement des douleurs. Non, mais il y a aussi, une découverte du corps, et il y a effectivement toutes ces scènes très très dures et très très bien écrites sur les douleurs que peut ressentir Véron à la suite de son accouchement, qui s'est passé évidemment dans les conditions qu'on imagine assez spartiates dans son village pyrénéen. Et elle a tout à fait 20 ans, puisque ça s'ouvre, on est en 1889, une femme. C'est la naissance d'une femme, et on arrive en 1909, pour répondre à votre interrogation tout à l'heure, Jean-Christophe Brianchon. Mais on suit les discussions, on suit les mots d'ordre, alors c'est vrai que Clotilde, elle parle beaucoup par, on dirait un politique du 21e siècle pour le coup. Hein. Elle débite du tract.
C'est l'idéologie, c'est ça, il y a une espèce de messages idéologiques qui sont injectés dans le récit, ce qui, à mon avis, je suis d'accord, ralentissent un peu...
C'est-à-dire qu'il y a plein d'éclats, parce qu'il y a aussi quand même ce moment où Véron devient une star de la scène alternative, de la scène underground. Enfin, pas tellement underground d'ailleurs, parce que c'est un théâtre...
Poussé sur scène.
Ouais, poussé sur scène.
C'est très étrange.
Et ça, c'est très beau. Moi, j'avais envie que ça
se... pas très bien ce que c'est.
J'avais envie que cet élément-là soit poussé, mais voilà, elle s'en échappe parce qu'il y a quelque chose qui lui convient pas, et hop, elle passe à autre chose. Lucille, comment?
Mais justement, c'est l'étrangeté dans le rapport à l'histoire qui est assez fascinant. Vous parliez de cette scène-là. Il y a aussi des scènes de train où on est à l'inverse des fameuses scènes de train du roman, grand roman industriel. C'est des scènes de train où on voit juste les miettes dans les barbes des hommes, des crachats sur un plancher, les paysages sont extrêmement étranges. Tout ça, justement, est très brouillé, et c'est ce rapport-là qu'il fallait peut-être avoir avec la grande histoire. Et dès qu'on rentre dans le dialogue, il y a un truc contradictoire qui se passe, moi, je trouve.
Mais la volonté de ne pas se laisser piéger par des modèles littéraires antérieurs devient presque obsessionnel chez cet auteur et finit par être, je dirais, quelque chose qui freine un peu le récit. Des fois, il faut peut-être céder. Mais là, il y a une volonté de ne pas céder qui crispe un peu le récit.
C'était un exercice auquel il était peut-être intéressant de se donner. En plus, je pense que ça répond tout à fait au style, je veux dire, sur le plan effectivement littéraire, ce rapport qu'elle a à l'histoire et à la politique, ça se répond tout à fait de la même façon qu'elle va passer. Effectivement, on sera à Paris, puis avoir l'impression d'être à Venise, puis sans savoir où on est. En fait, bon, de la même manière qu'elle va maltraiter son lecteur sur le plan stylistique, d'une certaine façon, elle va aussi le maltraiter sur le plan politique et historique. Et ce sera à nous de nous faire notre avis et à nous de ressentir ou non ce qu'elle veut nous dire.
Et à nos auditrices et auditeurs d'aller lire Véron d'Hélène Zimmer chez POL. Avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute avec Sarah Dion qui nous a rejoint pour nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier au soir avant de nous donner la réponse.
La question d'hier était: qui est à l'origine de la chanson L'ami Zanthrope en deux mots, hommage humoristique à la pièce de Molière? Et la réponse est Bobby Lapointe.
Ce soir, on fait gagner des exemplaires de la revue de France Culture, la revue papier, numéro 27, Sommes-nous encore démocrates, coédition Radio France et Exil. Quelle est la question?
À quand date-t-on l'invention du papier en Chine?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Demain à 19h, dispute cinéma qui sera menée par Lucille Comeau. Elle sera en compagnie de Muriel Jaudet, Thierry Chaise et Julien Gester. Vous débattrez donc à propos des films Les Éternels, Jajanke, Casting de Nicolas Wackerbart. Il y aura un coup de cœur de Lucille Comeau pour Santiago Italia de Danny Moretti. Et un petit salon où vous accueillera exceptionnellement Boris Pinault pour un bilan des Oscars et des Césars.